Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8h ici à la Maison de la Presse. Nous sommes vendredi 20 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Le lancement officiel du festival Vivre Ensemble a eu lieu hier à Tombouctou. Cette 9e édition a pour thème « Jeunesse et engagement citoyen au cœur de la réconciliation et du vivre ensemble ». Les travaux des États généraux de la santé se sont achevés hier jeudi à Bamako. Les recommandations issues de cette rencontre ont trait à l'amélioration du système sanitaire malien et la digitalisation de ses services. L'ONG Wildaf a remis hier aux autorités son rapport sur les violences sexuelles. Le document porte essentiellement sur les possibilités de réparation des victimes. Voilà les grandes lignes de l'actualité de ce vendredi matin. Les détails, c'est juste après ça. Ce journal vous est présenté par Lala Diarra Touré avec la complicité technique de Philippe Dambélé. L'ouverture officielle du festival Vivre Ensemble a eu lieu ce jeudi soir. La cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de la Réconciliation a réuni les autorités locales ainsi que les notabilités de la région de Tombouctou. Dans les différents discours à la tribune du festival, on retient que la culture est un facteur de paix et de cohésion sociale. Les détails, c'est avec notre envoyé spécial à Tombouctou, Imrana Kilumega.
Le vivre ensemble, j'aimerais vous dire que ce n'est pas qu'un seul mot. C'est une action, c'est une activité, c'est un concept, c'est un choix et c'est un engagement.
C'est ainsi que le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale a commencé son discours d'ouverture. Ismaël Ouagé se réjouit de la tenue d'un tel événement à Tombouctou. C'est là, malgré les atrocités qu'a vécu la région en 2012.
Ce qui se passe à Tombouctou est magnifique. Tombouctou a été connu en 2012 pour avoir subi les pires atrocités. Chacun s'est donné la main pour qu'on puisse oublier un peu. Et aujourd'hui, le résultat est là.
Pour la Benjamin du festival Vivre Ensemble, Fatouma Adjaouyakoy, ce rendez-vous culturel consiste à rassembler, unir et créer pour que Tombouctou continue de rayonner en tant que symbole du vivre ensemble et de la cohésion sociale.
Cette 9e édition est une nouvelle pierre à l'édifice de la paix. Elle est une opportunité unique de célébrer notre diversité et de renforcer les liens entre les communautés de Tombouctou et au-delà. C'est également une occasion de montrer que, malgré les épreuves, Tombouctou reste un modèle vivant du vivant.
Oumou Sangaré, Vie Farka, Tchale Arbi, le jeune Touareg Bambino du Niger, Prince Diallo sont entre autres les artistes qui vont animer pour cette 9e édition du festival Vivre Ensemble. De Tombouctou, Imrana Kilomaïga pour Studio Tamani.
Chers auditeurs, vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Les travaux des États généraux de la santé ont pris fin hier après-midi. Les débats ont porté sur des sujets qui concernent notamment l'amélioration de l'offre du service de santé au Mali. Des discussions ont également été faites sur les questions traversables, notamment la digitalisation au niveau de la santé, le climat et la santé ainsi que l'énergie. Dr Bakeita, modérateur au micro de Moussa Malé Sissoko.
On parle de la formation. La formation touche tous les domaines en rapport avec tout ce qui est digitalisation. Digitalisation au niveau de la santé, mais également au niveau des différents partenaires qui collaborent avec le ministère de la Santé. Il y a également l'énergie, parce que les services de santé ont besoin d'énergie pour fonctionner. S'il n'y a pas d'énergie, la qualité des soins est compromise en ce moment. Donc ce sont des éléments qui sont transversaux sur lesquels nous avons à nous pencher et à proposer des solutions. Les constats ont été faits d'abord au niveau de régions. Le deuxième élément maintenant au niveau national, est-ce qu'il y a certaines problématiques qui n'ont pas été suffisamment abordées au niveau des régions que nous pouvons ajouter?
Je vous l'annonçais au sommaire, l'ONG Wildaf a remis hier son rapport sur les violences sexuelles aux autorités. Cette étude porte sur les possibilités de réparation des victimes. C'est là sur le plan sanitaire, sécuritaire, mais aussi judiciaire. 48 victimes des régions de Tombouctou, Gao, Mopti et Bamako ont participé à l'élaboration de cette étude du réseau d'associations et d'ONG de promotion et de protection des droits des femmes au Mali. Mariam Koulibaly nous en dit plus.
C'est un document de plaidoyer en faveur de toutes les femmes victimes de violences sexuelles, selon Bintou Founes Amaké, présidente de l'ONG Wildaf.
Il s'agit des viols collectifs, des enlèvements, des mariages forcés, des flagellations publiques. Ces victimes veulent se faire entendre, de participer activement au processus d'élaboration de politiques de réparation, ainsi qu'à la mise en place de fonds nationaux de réparation.
Au cours de la remise, les victimes ont brisé les tabous en évoquant les graves violations des droits de l'homme qu'elles ont subies. Comme en témoigne Fatoumata Aboubakar Cissé, représentante des survivantes.
L'année 2012, on était au nord du Mali. Ils ont rentré, tué notre mari, il nous a violés. Il y a nos sœurs qui ont trouvé la grossesse. On est là aujourd'hui pour le gouvernement malien de nous aider avec l'éducation de nos enfants.
80-333, c'est le numéro vert destiné à dénoncer les violences basées sur le genre. Il a été rappelé par les représentants du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille lors de cette cérémonie.
Reportage signé à l'instant, Mariam Koulibaly. Autre actualité, de nombreuses routes, des places et établissements publics dans le district de Bamako changent d'appellation. C'est à la suite d'un décret signé par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ledit décret a été adopté le 13 décembre 2024. Plus de détails avec Moumine Sendebou, rendu ici par Moussa Ag Mahaha.
À travers ces nouvelles dénominations, les autorités de la transition rendent hommage à des personnalités qui ont marqué l'histoire et la culture du Mali, ainsi que les figures internationales reconnues pour leur contribution à la justice et à la liberté. Ainsi, le boulevard Soundiata Keïta remplace la route régionale numéro 9, RR9. L'avenue Mahaman Alassane Haïdara succède l'avenue Maurice Mouti. La route du pont des Martyrs au croisement de la rue Nelson Mandela en passant par le marché de Banani est nommée boulevard du peuple. Aussi, une rue porte désormais le nom du professeur Ogobara Dumbo, de la route qui mène à l'entrée de l'hôpital de Pongé. Dans les mêmes décrets, on peut noter l'avenue Modibo Keïta, celle du général Moussa Traoré ou encore l'avenue du général Amadou Toumani Touré, ATT, tous des anciens chefs d'État du Mali. L'une des places les plus emblématiques, place du sommet Afrique-France, devient la place de la Confédération des États du Sahel. Des établissements publics ont également été renommés. L'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako change à l'Université Yambo Olegem de Bamako. Quant à l'Institut National des Arts, INA, il prend le nom du professeur Gaussou Diawara.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
8 heures passées de 7 minutes, vous nous écoutez depuis la Maison de la Presse. Comme annoncé le mardi dernier, aujourd'hui, nous vous proposons la suite de notre dossier de la semaine sur la pression sociale, notamment le cas de la pression parentale, une forme d'influence exercée par les parents pour conformer un enfant aux attentes de la famille. Cette pression directe ou indirecte, exercée souvent sur des jeunes filles et garçons, peut avoir des conséquences graves sur leur bien-être, selon des spécialistes. La suite de ce dossier, c'est avec Lali Tanara.
Dans notre société, la pression familiale est chose courante. Les psychologues soutiennent que cette pression qui ne dit pas son nom peut avoir des répercussions sur la santé mentale des enfants. Elle peut également les conduire à des pratiques malsaines. Drissa Traoré, psychologue.
Exiger une charge à cet enfant est une agression psychologique, une violence psychologique ou émotionnelle qui peut tourmenter l'enfant. Et cela peut conduire à des pratiques indignes qui les poussent à avoir de l'argent, quelle que soit la manière. Surtout si c'est une fille, c'est encore plus dangereux, ça l'expose à tout.
Cette pratique n'est pas islamique, affirme Imam Alassane Ba. Selon lui, l'islam recommande l'éducation des filles et les inculquer les bonnes manières. Il ajoute qu'on ne doit pas les imposer des responsabilités qu'elles ne pourront pas assumer.
Celle qui va même amener de l'argent dehors doit être interrogée, questionnée. Où est-ce qu'elle a trouvé et de qui est-ce que cette somme provient? Et si on ne le fait pas, on n'est pas responsable. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, vous êtes tous des bergers et vous serez tous questionnés au sujet de votre troupeau.
Daniel Keita est responsable d'une église protestante à Mamassoni, un quartier de Sikasso. Explique que la Bible demande d'enseigner les bonnes pratiques aux enfants, mais qu'elle n'exige pas à ce qu'on leur impose des choses au-delà de leurs capacités.
La Bible dit d'enseigner les bonnes manières aux enfants, de faire en sorte qu'ils soient responsables et reconnaissants envers leurs parents. Et quand ces derniers sont en difficulté, c'est à l'enfant de voir ce qu'il peut faire pour eux. Dire que si l'enfant ne les aide pas, qu'il aura de la malédiction. La Bible ne dit pas cela.
De leur côté, des sociologues estiment que ces pressions parentales-là sont dues à la pauvreté. Moussa Cissé, sociologue, avance que les avoirs de certains parents ne sont pas suffisants.
Je peux dire que les enfants doivent, par devoir, participer aux charges familiales. À mon avis, seule la pauvreté, presque généralisée, semble être à l'origine de certains abus qui poussent parents et enfants à certaines pratiques malsaines.
Ces spécialistes sont convaincu de la contribution des enfants, mais à la limite du possible. Comme on le dit, il est important de rester raisonnable en toutes circonstances.
Dossier signé à l'instant, Lale Tangara, faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Vous pouvez réécouter gratuitement ce journal et les magazines qui va suivre en appelant les services Kunafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Gardez vos positions. À ma suite, Mariam Koulibaly sera là pour le journal La Langue Nationale. Bamanankan, prenez soin de vous et des autres. Très bonne journée de vendredi à tous. Au Mali, diffuser des photos et des vidéos de ses enfants sur Internet est devenu une pratique banale pour certains parents. Mais elle n'est pas sans risque car le droit à l'image des enfants existe désormais au Mali. La loi a été adoptée en février 2024 pour mieux garantir et protéger le droit à l'image des enfants sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour se conformer à son application, l'UNICEF et l'autorité de régulation des médias au Mali ont signé un protocole d'entente dans ce sens en début de semaine à Bamako. Quel est son contenu? Les détails dans ce magazine « Tous les enfants » réalisé et présenté par l'Alecha Wallet Infa.
Faites-vous partie de ces parents qui aiment publier les photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux? En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux, ces parents, à les faire sans réfléchir aux conséquences. De Bamako à Yoroso, Bafulabe jusqu'à Gao, pour ces responsables, c'est juste une déclaration d'amour.
Souvent, je publie la photo de mes enfants sur WhatsApp ainsi que sur TikTok aussi. Quand même, moi, je le fais par plaisir seulement.
Je suis à Iwaru, mais dire qu'il y a une conséquence en cela, ça, je n'ai pas connaissance de cela. J'aime ma fille, je mets ça sur mon profil WhatsApp.
On peut télécharger ses anciennes photos pour l'attaquer ou lui causer du tort. À l'image de leurs parents, certains enfants témoignent le fait que papa ou maman partagent leurs photos sur ces plateformes. Toutefois, d'autres sont conscients des dangers.
Les méchantes personnes peuvent me faire du mal.
J'aime beaucoup quand ma maman me met sur TikTok.
Un jour, une femme m'a arrêtée, elle m'a dit « Viens, je vais te prendre en photo pour te mettre sur mon site. » Et j'ai dit non.
Ça me plaît d'avoir mes photos sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube.
Parents ou enfants sont-ils conscients des dangers liés à l'exposition de ces images et vidéos? L'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant au Mali, APROFEM, dénonce une pratique dangereuse pour l'enfant. Car n'importe qui peut tomber sur ces images et les utiliser à d'autres fins. Sa directrice, Madame Traoré Awa Traoré appelle les parents garants de la protection des enfants à une prise de conscience.
En se disant qu'en exposant mon enfant sur les réseaux sociaux, je n'ai plus l'exclusivité de ce que j'ai exposé sur les réseaux sociaux. Et c'est des images en réalité qu'on peut utiliser à outrance pour faire du mal à l'enfant quand il sera adulte.
La diffusion des images ou des vidéos des enfants est une infraction selon l'autorité de protection des données à caractère personnel au Mali. Selon son directeur de la communication et des relations publiques, Ismaël Traoré affirme que cette pratique constitue une atteinte à la vie privée de cet enfant.
Donc toute information permettant d'identifier directement ou indirectement une personne constitue une donnée à caractère personnel. Parce que déjà l'enfant, aujourd'hui, il est enfant, il est bébé, il n'a ni donné son consentement, ni donné son approbation à être vilipendé sur les réseaux sociaux comme ça. Publier un enfant sur les réseaux sociaux sans le consentement des parents ou bien dans des postures bizarres constitue une infraction.
Pour renforcer cette protection et mieux appliquer les textes visant les droits à l'image des enfants, l'UNICEF et la Haute Autorité de la Communication ont signé un protocole d'attente cette semaine. Objectif : garantir la protection des enfants contre la diffusion d'images agressives ou inadéquates dans les médias. Pierre Ngom, représentant résident de l'UNICEF au Mali.
C'est écrit clairement que la Haute Autorité de la Communication doit aider à préserver l'image et aussi à entendre les voix des enfants au Mali. C'est dans ce cadre que nous avons signé un accord de coopération pour que nous travaillions ensemble avec la HAC pour préserver l'image des enfants dans les médias, mais aussi pour s'assurer que la voix des enfants est entendue.
Il faut rappeler que la loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants face aux dérives des parents a été promulguée le 19 février 2024.